Voici la recette. La limonade, l'exercice outré, le travail forcé. Éreintez-vous.
J'aime bien une femme.
Méfiez-vous-en. Malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme.
Tholomyès, tu es ivre. Alors sois gai. Ouais.
J'y consens. Gloire au vin. Favorite, vous parlez de mon nom tout à l'heure. Cela m'a attendri. Mais méfions-nous des noms. Je me nomme Félix, et je ne suis pas heureux. Les mots sont démenteurs. Je ne dis rien de Fantine. C'est une songeuse. C'est un fantôme ayant la forme d'une nymphe et qui se fourvoie dans la vie de grisette mais qui se réfugie dans les illusions et qui chante et qui prie. Fantine, sache ceci, moi Tholomyès, je suis une illusion.
Oui, exactement.
Mesdames, un deuxième conseil. Ne vous mariez point. Fuyez ce risque. Qu'est-ce que je chante là? Je perds mes paroles. Les filles sont incurables sur les fousailles. Je me tourne vers les hommes. Messieurs, faites des conquêtes. Pillez-vous les uns aux autres sans remords, vos bien-aimés. Partout où il y a une jolie femme, l'hostilité est ouverte. La femme est le droit de l'homme. Ça va la sagesse. Oubliez tout ce que j'ai dit, je porte un toast à l'allégresse. Embrasse-moi, Fantine.
Tholomyès, lancé, se serait difficilement arrêté si un cheval ne se fût abattu sur le quai en cet instant même. C'était une jument beauceronne, vieille et maigre et digne de l'écarisseur, qui traînait une charrette fort lourde.
Pauvre cheval.
Voilà Fantine qui va se mettre à plaindre les chevaux. Peut-on être fichu bête comme ça?
Et la surprise?
Justement, l'instant est arrivé. Messieurs, l'heure de surprendre ces dames a sonné. Mesdames, attendez-nous un moment.
Cela commence par un baiser.
Sur le front.
C'est déjà amusant.
Ne soyez pas trop longtemps. Nous attendons.
Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret, bras dessus, bras dessous. Ils se retournèrent, leur firent des signes en riant et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche. Elles furent bientôt distraites par le mouvement du bord de l'eau qu'elles distinguaient dans les branches des grands arbres et qui les divertissait fort. C'était l'heure du départ des malle-poste et des diligences. Un certain temps s'écoula.
Eh bien, et la surprise? Ils sont bien longtemps.
Le garçon qui avait servi le dîner entra.
Qu'est-ce que cela?
C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames.
Pourquoi ne l'avoir pas apporté tout de suite?
Parce que ces messieurs ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'une heure.
Favorite arracha le papier des mains du garçon.
Tiens, il n'y a pas d'adresse.
C'était une lettre, en effet.
Mais voici ce qui est écrit dessus. Ceci est la surprise. Ô nos amantes, sachez que nous avons des parents. Des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et des mères dans le code civil, puéril et honnête. Or, ces parents gémissent, ces vieillards nous réclament. Nous leur obéissons étant vertueux. À l'heure où vous lirez ceci, cinq chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme,
et l'abîme, c'est vous, ô nos belles petites. Nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre au grand trot. Il importe à la patrie que nous soyons comme tout le monde, préfet, père de famille, garde champêtre et conseiller d'État. Vénérez-nous.
Nous nous sacrifions. Pleurez-nous rapidement et
remplacez-nous vite.
Pendant près de 2 ans, nous vous avons rendu heureuse.
Adieu.
Ne nous en gardez pas rancune. Post-scriptum, le dîner est payé.
Les 4 jeunes filles se regardèrent. Elles éclatèrent de rire, Fantine comme les autres. Une heure après, quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle pleura. Fantine était un de ces êtres comme il en est clos, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. À 15 ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. Elle avait de l'or et des perles pour dot, mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre, puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa faim aussi, elle aima. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant. Il y avait, dans le premier quart de ce siècle, à Montfermeil, près de Paris, une façon de gargote qui n'existe plus aujourd'hui. On voyait au-dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur. Sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme, lequel avait de grosses épaulettes de général dorées avec de larges étoiles argentées. Des taches rouges figuraient du sang. Au bas, on lisait cette inscription « Au sergent de Waterloo ». Un soir de printemps de 1818, un fragment de véhicule encombrait la rue devant la gargote. Le centre d'une chaîne pendait sous les cieux et, sur la courbure, comme sur la corde d'une balançoire, étaient assises deux petites filles, l'une d'environ 2 ans et demi, l'autre de 18 mois, la plus petite dans les bras de la plus grande. On eût dit deux roses dans la ferraille. À quelques pas, accroupie sur le seuil de l'auberge, la mère, femme d'un aspect peu avenant, mais touchante en ce moment-là, balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle, les couvant des yeux de peur d'accident, avec cette expression animale et céleste propre à la maternité. Cependant, quelqu'un s'était approché d'elle.
Vous avez là deux jolis enfants, madame.
Cette femme, elle aussi, avait un enfant qu'elle portait dans ses bras. Elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd. L'enfant était un des plus divins êtres qu'on pût voir. C'était une fille de 2 à 3 ans. Elle était admirablement rose et bien portante. Elle dormait. Quant à la mère, l'aspect en était pauvre et triste. C'était Fantine. Difficile à reconnaître. Pourtant, à l'examiner attentivement, elle avait toujours sa beauté. Un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie ridait sa joue droite. 10 mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces 10 mois? On le devine. Après l'abandon, la gêne. Le lien brisé du côté des hommes s'était défait du côté des femmes. Fantine était restée seule. Elle savait à peine lire. Elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à Tholomyès, puis une seconde, puis une troisième. Il n'avait répondu à aucune. Son cœur devint sombre à l'endroit de cet homme. Quel parti prendre pourtant? Elle ne savait plus à qui s'adresser. Elle avait commis une faute, mais le fond de sa nature, on s'en souvient, était pudeur et vertu. Il fallait du courage, elle en eut et se roidit. L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Là, quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail. Et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première. Vers le milieu du jour, Fantine, après avoir, pour se reposer, cheminé de temps en temps, moyennant 3 ou 4 sous par lieu dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris, se trouvait à Montfermeil devant l'auberge. Les deux petites filles, sur leur escarpolette monstre, avaient été pour elle une sorte d'éblouissement. La mère leva les yeux et fit asseoir la passante sur le banc de la porte.
Je m'appelle Madame Thénardier. Nous tenons cette auberge.
C'était une femme rousse, charnue, anguleuse, le type femme à soldat dans toute sa disgrâce. Et chose bizarre, avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques. Elle était jeune encore, elle avait à peine 30 ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant propre aux foires eussent-elles effarouché la voyageuse, troublé sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d'être debout, les destinées tiennent à cela. Fantine raconta son histoire, un peu modifiée. qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris et qu'elle allait en chercher dans son pays. Elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla. L'enfant ouvrit les yeux, de grands yeux bleus comme sa mère, et regarda, quoi ? Rien, tout, avec cet air mystérieux et quelquefois sévère des petits-enfants, qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu. On dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes. Puis l'enfant se mit à rire, et quoique la mère la retint, glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir. Tout à coup, elle aperçut les deux autres sur leur balançoire. La mère Thénardier détacha ses filles.
Amusez-vous toutes les trois. Comment s'appelle votre mioche ?
Cosette.
Quel âge a-t-elle ?
Elle va sur ses 3 ans.
C'est comme mon aîné. Les enfants, comme ça se connaît tout de suite. Et voilà qu'on jurait 3 sœurs.
Ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement Fantine. Elle saisit la main de la Thénardier.
Voulez-vous me garder mon enfant ? Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, cela m'a bouleversée. J'ai dit, voilà une bonne mère. C'est ça, ça fera 3 sœurs. Et puis je ne serai pas longtemps à revenir.
Faudrait voir.
Je donnerai 6 francs par mois.
Pas à moins de 7 francs. Et 6 mois payés d'avance.
Je les donnerai.
Et 15 francs en dehors pour les premiers frais.
Je les donnerai, j'ai 80 francs. Il me restera de quoi aller au pays, en allant à pied. Je gagnerai de l'argent là-bas et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour.
La petite a un trousseau ?
C'est mon mari.
Sans doute elle a un trousseau, le pauvre trésor. J'ai bien vu que c'était votre mari. Et un beau trousseau encore, un trousseau insensé. Tout par douzaines, et des robes de soie, comme une dame. Il est là, dans mon sac de nuit.
Il faudra le donner.
Je crois bien que je le donnerai. Ce serait cela qui serait drôle, si je laissais ma fille toute nue.
C'est bon.
Le marché fut conclu. Fantine passa la nuit à l'auberge, donna l'argent et laissa son enfant, renoua son sac de nuit, léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme
« Cela va me payer mon effet de 110 francs qui échoua demain. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un protêt ? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. »
Sans m'en douter.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. 2e épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Paul Schmitt, Petit Gervais, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, la Thénardier, Fabrice Deville, Tholomyès, Sophie Froissart, Favourite, Maëlys Ricordeau, Dahlia. Et les voix d'Yvan Cory, Christophe Raymond, Philippe Chen, Bruno Boulzaguet, Michel Baladi, François Perrache, Margaret Zenou et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache et Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dérété et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.
Vous venez d'entendre les 2 premiers épisodes des Misérables de Victor Hugo, dans une adaptation d'Hélène Bleskin, diffusée respectivement les 24 et 25 décembre 2012 sur France Culture. Réalisation François Christophe.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Homme, votre lumière est faite avec de l'ombre, écrivait-il. La lumière et l'ombre, la lumière et les ténèbres sont partout, on le sait, dans l'œuvre de Victor Hugo. Dans sa poésie, dans ses romans, comme dans ses dessins. Beaucoup de grands esprits, du genre de ceux à qui on ne la fait pas, ont pu longtemps voir là, comme dans les innombrables antithèses dont sont parsemés ses textes, le signe d'un esprit un peu lourd et manichéen. Le temps et l'acuité du regard de lecteur plus attentif auront su montrer que chez Hugo, tout est plus compliqué, plus imbriqué et plus profond qu'il n'y paraît, et que le chemin le plus direct vers l'enfer n'est pas forcément pavé de mauvaises intentions. D'où vient la lumière et de quoi est faite l'ombre chez Hugo? Qui est le dieu, qui est le Satan de son œuvre monumentale? C'était au fond les questions que posait en 1979 une série en 5 temps de Philippe Nemo pour l'autre scène où les vivants et les dieux. En compagnie d'Yves Gohin, spécialiste de littérature française et de Victor Hugo en particulier, le 4e volet de la série tentait de saisir les rayons de lumière et de progresser dans les ténèbres de ce qui fut le dernier roman d'Hugo, 93. L'autre scène où les vivants et les dieux, Victor Hugo, le combat des ténèbres, 4e de 5 épisodes, le contexte historique du roman 93 avec Yves Gohin et les voix de François Perrier et de François Chaumette. Une émission diffusée la première fois le 28 mai 1979 sur France Culture.
Écoutons le début d'un récit. Le bataillon du Bonnet Rouge, en 1793, est en marche dans le bois de la Saudrée, en Bretagne, et il se tient sur ses gardes en traversant ses taillis épais.
On marchait. On allait à l'aventure avec inquiétude et en craignant de trouver ce qu'on cherchait. De temps en temps, on rencontrait des traces de campement, des places brûlées, des herbes foulées, des bâtons en croix, des branches sanglantes. Là, on avait fait la soupe. Là, on avait dit la messe. Là, on avait pansé des blessés. Mais ceux qui avaient passé avaient disparu. Où étaient-ils? Bien loin, peut-être. Peut-être là, tout près, cachés. Les spingoles au poing. Le bois semblait désert. Le bataillon redoublait de prudence. Solitude, donc, défiance. On ne voyait personne, raison de plus pour redouter quelqu'un. On avait affaire à une forêt malfamée. Une embuscade était probable.
Voici donc un récit dans un roman de Victor Hugo, 93, qui raconte la guerre des Chouans contre les armées de la République conventionnelle et les bandes de paysans vendéens et bretons conduites par leurs nobles et leurs prêtres. Mais, quelque haletant que soit ce récit, ce n'est pas lui que nous entendrons ce soir. C'est un certain air dans lequel le génie de Victor Hugo le fait baigner. Mais voici que le bataillon entend un bruit. Tous les soldats s'apprêtent à tirer, mais il apparaît soudain que le bruit a été causé non pas par une embuscade, mais par une femme seule, cachée dans les buissons, avec 3 petits enfants, dont l'un tête au corps au sein. Le sergent interroge la jeune femme, et c'est dans ce dialogue que commencent à se démarquer ténèbres et lumières.
« Qui es-tu, madame ?» La femme le considérait terrifiée. Elle était maigre, jeune, pâle en haillons. Elle avait le gros capuchon des paysannes bretonnes et la couverture de laine rattachée au cou avec une ficelle. Elle laissait voir son sein nu avec une indifférence de femelle. Ses pieds sans bas ni souliers saignaient. « C'est une pauvre, dit le sergent. Et la vivandière reprit de sa voix soldatesque et féminine, douce en dessous. « Comment vous appelez-vous ? » La femme murmura dans un bégaiement presque indistinct. « Michel Fléchard. » Cependant, la vivandière caressait avec sa grosse main la petite tête du nourrisson. « Quel âge a ce môme ? » demanda-t-elle. La mère ne comprit pas. La vivandière insista. « Je vous demande l'âge de ça. »« Ah, dit la mère, 18 mois. » « C'est vieux, dit la vivandière, ça ne doit plus téter. Il faudra me sevrer ça. Nous lui donnerons de la soupe. » La mère commençait à se rassurer. Les deux petits qui s'étaient réveillés étaient plus curieux qu'effrayés. Ils admiraient les plumets. « Ah, dit la mère, ils ont bien faim. » Et elle ajouta, « Je n'ai plus de lait. »« On leur donnera à manger, cria le sergent, et à toi aussi. Mais c'est pas tout. » « Quelles sont tes opinions politiques ?» La femme regarda le sergent et ne répondit pas. « Entends-tu ma question ?» Elle balbutia. « J'ai été mise au couvent toute jeune, mais je me suis mariée. Je suis pas religieuse. Les sœurs m'ont appris à parler français. On a mis le feu au village. Nous nous sommes sauvés si vite que je n'ai pas eu le temps de mettre des souliers. Je te demande quelles sont tes opinions politiques ?»« Je sais pas ça. » Le sergent poursuivit. « C'est qu'il y a des espionnes. Ça se fusille, les espionnes. Voyons, parle. Tu n'es pas bohémienne ? Quelle est ta patrie ?»
Le malheur est que la femme ne comprend pas le mot « patrie ». La douleur est au-delà de la raison. Nous allons donc lire ce soir quelques-unes des plus belles pages de 93, qui est lui-même un des plus beaux romans de Victor Hugo. Nous allons chercher dans le grand art de Victor Hugo les rayons et les ombres, comme il le dit lui-même, qui jaillissent du combat des ténèbres et de la lumière, quand un grand artiste, qui est aussi un grand penseur, médite sur ce combat, et médite sur ce combat sur la scène même de l'histoire, ici, la Révolution française. Mais continuons pour le moment notre dialogue entre le sergent Radoub et la pauvre femme perdue. C'est toute l'histoire de la Révolution que nous allons y voir prendre visage.
Le sergent répéta, « Quelle est ta patrie ?»«
Je sais pas, dit-elle. »«
Comment, tu ne sais pas quel est ton pays ?»«
Ah, mon pays, si fait. »«
Eh bien, quel est ton pays ?»
La femme répondit, « C'est la métairie de Ciscoignard, dans la paroisse d'Azé. » Ce fut le tour du sergent d'être stupéfait. Il demeura un moment pensif, puis il reprit. « Tu dis ? Ciscoignard ?
C'est pas une patrie, ça !
C'est mon pays. » Et la femme, après un instant de réflexion, ajouta. « Je comprends, monsieur, vous êtes de France. Moi, je suis de Bretagne. »
« Eh bien ! »
« C'est pas le même pays. »
« Mais c'est la même patrie !» cria le sergent.
La femme se borna à répondre, « Je suis de Ciscoignard. »«
Va pour Ciscoignard, reprit le sergent. C'est de là qu'est ta famille ?»«
Oui. »«
Que fait-elle ? » ?»«
Elle est toute morte. Je n'ai plus personne. »
Cependant, le sergent insistait. « Parle donc, madame. As-tu une maison ?»«
J'en avais une. »«
Où ça ?»«
À Azé. » »«
Pourquoi n'es-tu pas dans ta maison ?»«
Parce qu'on l'a brûlée. » »«
Qui ça ?»
Je sais pas. Une bataille.
D'où viens-tu ?
De là.
Où vas-tu ?
Je sais pas.
Arrive au fait, qui es-tu ?
Je sais pas.
Tu sais pas qui tu es ?
Nous sommes des gens qui nous sauvons.
De quel parti es-tu ?
Je sais pas.
Es-tu des bleus ? Es-tu des blancs ? Avec qui es-tu ?
Je suis avec mes enfants. Il y eut une pause, la vivandière dit...
« Moi, j'ai pas eu d'enfant. J'ai pas eu le temps. » Le sergent recommença. « Mais tes parents, voyons, madame, mets-nous au fait de tes parents. Moi, je m'appelle Radoub. Je suis sergent. Je suis de la rue du Cherche-Midi. Mon père et ma mère en étaient. Je peux parler de mes parents. Parle-nous des tiens. Dis-nous ce que c'était que tes parents. »
« C'était les Fléchards, voilà tout. »
« Oui, les Fléchards sont les Fléchards, comme les Radoub sont les Radoub. Mais on a un état. » Quel était l'état de tes parents ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui fléchardait, tes fléchards ?
C'était des laboureurs.
Mon père était infirme
et ne pouvait travailler à cause qu'il avait reçu des coups de bâton que le Seigneur, son Seigneur, notre Seigneur, lui avait fait donner, ce qui était une bonté parce que mon père avait pris un lapin, pour le fait de quoi on était jugé à mort. Mais le Seigneur avait fait grâce et avait dit « Donnez-lui seulement 100 coups de bâton. » Et mon père était demeuré estropié. Et puis, mon grand-père était huguenot. Monsieur le curé l'a fait envoyer aux galères. J'étais toute petite. Et puis, le père de mon mari était un faux-saunier. Le roi l'a fait pendre. Et ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Ces jours-ci, il se battait. Pour qui? Pour le roi. Et puis, dame, pour son seigneur. Et puis, dame, pour monsieur le curé. Sacré mille noms de brutes, cria un grenadier.
La vivandière, c'est-à-dire la femme qui accompagne le bataillon pour préparer la cuisine, prend maintenant fait et cause pour Michel Fléchard. Elle fait jouer les trois petits sur ses genoux, et ce qui devait arriver arrive. Elle découvre, et tout le bataillon avec, que la famille Fléchard et les sans-culottes qui composent le bataillon appartiennent en fait au même peuple pauvre et travailleur, opprimé de la même façon par les nobles, et que c'est donc un paradoxe cruel qu'ils doivent se faire, parisiens et vendéens, la guerre jusqu'à la mort. Puis le bataillon, qu'on imagine déployé en cercle autour de la femme et de Radoub, apprend que le mari de Michel Fléchard a été tué, elle ne sait pas par qui, par un coup de fusil, dit-elle. Puis qu'elle erre sans rien comprendre depuis des jours et des jours avec ses trois enfants, sans rien manger, en dormant dans des trous.
Elle regardait la terre, résignée, ayant dans les yeux l'étonnement des catastrophes. Les soldats silencieux faisaient cercle autour de cette misère. Une veuve, trois orphelins, la fuite, l'abandon, la solitude, la guerre grondant tout autour de l'horizon, la faim, la soif, pas d'autre nourriture que l'herbe, pas d'autre toit que le ciel. Le sergent s'approcha de la femme et fixa ses yeux sur l'enfant qui tétait. La petite quitta le sein, tourna doucement la tête, regarda avec ses belles prunelles bleues l'effrayante face velue, hérissée et fauve qui se penchait sur elle, et se mit à sourire. Le sergent se redressa, et l'on vit une grosse larme rouler sur sa joue et s'arrêter au bout de sa moustache comme une perle. Il éleva la voix. « Camarade, de tout ça, je conclus que le bataillon va devenir père. Est-ce convenu? Nous adoptons ces trois enfants-là. Vive la République !» crièrent les grenadiers. « C'est dit !» fit le sergent. Et il étendit les deux mains au-dessus de la mère et des enfants. « Voilà, dit-il, les enfants du bataillon du bonnet rouge !» La vivandière sauta de joie. « Trois têtes dans un bonnet » cria-t-elle. Puis elle éclata en sanglots, embrassa éperdument la pauvre veuve et lui dit « Comme la petite a déjà l'air gamine !»« Vive la République !» répétèrent les soldats. Et le sergent dit à la mère « Venez, citoyenne !»
Yves Gohin, maître assistant à Paris 7.
D'emblée, il y a une comparaison facile qui s'impose, mais comme on souhaiterait la voir bien aboutir, c'est avec le cinéma, je trouve. Et il y a là, en noir et blanc, presque, on le souhaiterait, avec quelques taches de couleur, du bleu et du rouge notamment, et du vert. Il y a là une action éminemment cinématographique, et d'abord par la portée, la présence, l'intensité des images dans le silence de leur déroulement. Ces images qui ensuite débouchent sur un dialogue. Dès le début, dès la première phrase, l'histoire, avec un grand H, devient histoire avec un petit capital. Dans le présent, je dirais, dans ce présent d'une année qui n'a pas cessé d'obséder l'esprit de Hugo. Et dans ce présent d'une action où, étrangement, des Parisiens se trouvent dans un bois de Bretagne, Ce sont des conscrits, ce sont des Parisiens qu'on vient de recruter pour cette guerre et, enfin, beaucoup de précisions historiques de Hugo sont exactes, n'est-ce pas, dans ce roman, qui n'est pas une histoire romancée, en essence, pas du tout. Et c'est bien le Santerre, le père du faubourg, je crois, comme on l'appelait, qui a rassemblé des troupes à Paris et à l'intérieur de chaque section parisienne et était envoyé par la Convention en mai 93 comme général en Vendée. Il y a une héroïne qu'on connaît bien, c'est une mère, uniquement une mère. Et
mais la alors, sexualité est quand même là dans ce sein qu'elle tend à son enfant.
Oh, certainement, oui. Et dans la vie physique qui l'unit à ses enfants, et d'autre part...
Dans l'animalité.
C'est ça, cette animalité, mais d'un autre côté, la louve est femelle et la femelle est femme. Enfin, chez Hugo, ça se renverse.
Il y a aussi un pays.
Oui, il y a le pays. Il y a le pays qui s'oppose à la patrie. Il y a cette Bretagne si présente aussi pour nous. Enfin, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. C'est l'actualité de ce roman. C'est un peu une position apparemment facile d'essayer de stimuler l'attention du lecteur pour un roman qui est écrit il y a un siècle et qui se rapporte à des événements d'il y a deux siècles, de dire c'est d'une actualité criante, mais enfin c'est comme ça, je ne force pas les choses, et je m'en voudrais de les taire, même, puisque nous voilà en Bretagne, nous voilà dans une Bretagne qui s'oppose au pouvoir central, républicain et centralisateur, enfin, de la Convention.
Oui, c'est la guerre de Vendée, mais c'est la guerre de Vendée en Bretagne.
Oui, pour Hugo, il est certain que la Vendée s'élargit beaucoup, et d'ailleurs, il ne parle pas de la guerre de Vendée proprement dite, il parle, en fait, de la chouannerie. C'est-à-dire ce qui s'est passé, en effet, dans une Bretagne, et surtout dans les confins de la Bretagne, dans la Mayenne, autour de Rennes, de Laval, et pour finir dans la forêt de Fougères.
Oui, un beau pays, tel qu'on s'imagine qu'il était avant la Révolution, sans béton ni route, avec son bocage et ses taillis, ses chemins et ses églises, pays, hélas, ici, rougi par le sang. Mais puisque nous sommes là ce soir, pour écouter de la poésie, et pour écouter la poésie qu'il y a en tout beau langage, même lorsqu'il ne se veut pas spécialement poétique, écoutons Victor Hugo parler du pays breton, de ses bois et de ses forêts. Mais la poésie, c'est cela qui est intéressant, n'est pas seulement dans les lieux, elle n'est même pas tellement dans les lieux, elle est dans les noms des lieux. Victor Hugo, cerveau prodigieux sans doute, se plaît souvent à écrire des suites de noms propres, de lieux ou de personnes, qu'il qualifie chaque fois d'un trait marquant. Ici même, dans 93, il va décrire un par un tous les conventionnels en racontant à propos de chacun d'entre eux une histoire. On va donc voir ici l'histoire se déployer dans la Bretagne historique, certes, celle des bois et des forêts, mais en fait, à cause de ce statut singulier et provoquant des noms, dans une géographie qu'il n'est pas excessive de dire visionnaire plutôt que terrestre et topographique. Tout à l'heure, nous comprendrons mieux ce que cela signifie pour l'histoire et pour le débat philosophique dont témoigne le roman 93.
Il n'y avait pas que les forêts, il y avait les bois. De même qu'au-dessous des cités, il y a les villages, au-dessous des forêts, il y avait les broussailles. Les forêts se reliaient entre elles par le dédale, par tout et par des bois. Les anciens châteaux qui étaient des forteresses, les hameaux qui étaient des camps, les fermes qui étaient des enclos faits d'embûches et de pièges, les métairies ravinées de fossés et palissées d'arbres, étaient les mailles de ce filet où se prirent les armées républicaines. Cet ensemble était ce qu'on appelait le bocage. Il y avait le bois de Misnon, au centre duquel était un étang, et qui était à Jean Chouan. Il y avait le bois de Gênes, qui était à Taillefer. Il y avait le bois de la Huisserie, qui était à Gouges-le-Bruant. Le bois de la Charnie, qui était à Courtillet-le-Bâtard, dit l'apôtre Saint-Paul, chef du camp de la Vache Noire. Le bois de Burgot, qui était à cet énigmatique monsieur Jacques, réservé à une femme mystérieuse dans le souterrain de Juvardeille. Il y avait le bois de Charot, où Pimou, ses petits princes, attaqués par la garnison de Châteauneuf, allaient prendre à bras-le-corps dans les rangs républicains des grenadiers qu'ils rapportaient prisonniers. Le bois de la Heureuserie, témoin de la déroute du poste de Longuefay. Le bois de l'Aune, d'où l'on épiait la route entre Rennes et Laval. Le bois de la Gravelle, qu'un prince de la Trémoille avait gagné en jouant à la boule.
le bois de l'Orge dans les côtes du Nord où Charles de Boissardy régna après Bernard de Villeneuve, le bois de Bagnard près de Fontenay où Lescure offrit le combat à Chalbos qui, étant 1-5, l'accepta, le bois de la Durondais que se disputèrent jadis Alain le Redru et Hérispou, fils de Charles le Chauve, le bois de Croqueloup sur la lisière de cette lande où Coquereau tondait les prisonniers, le bois de la Croix-Bataille qui assista aux insultes homériques de Jambes d'Argent à Morière et de Morière à Jambes d'Argent, le bois de la Saudraie que nous avons vu fouillé par un bataillon de Paris, bien d'autres encore.
Eh bien, c'est dans un de ces bois, le bois de la Saudraie, au nom mystérieux, ou plutôt au nom que l'art plein de pensées de Hugo a rempli de mystères, que le bataillon du Bonnet Rouge a rencontré Michel Fléchard, et nous revenons avec lui et elle à l'histoire.
La femme ne comprend rien à ce qui lui est arrivé. Quand on lui demande quelles sont ses opinions politiques, elle répond qu'elle n'a pas eu le temps de mettre des souliers.
Elle ne connaît pas le mot politique.
Opinion, elle non plus. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, opinion. Quand on lui demande si elle a une patrie, elle ne comprend pas. Elle a un pays et son pays, c'est une métairie. Ou une paroisse, à la rigueur. Si on lui demande qui a brûlé sa maison, elle ne sait pas. C'est une bataille. Si on lui demande qui a tué son mari, c'est un coup de fusil. Elle n'est pas dans cette affaire d'homme. Et je l'entends à la fois au sens de homme homo et de homme vir. Dans cette affaire d'homme, elle n'a pas sa place. Cependant, alors, elle se trouve chargée d'enfants qui ont faim, elle ne peut plus les nourrir. Ces républicains qui arrivent là, sans doute pas la fleur au fusil, mais enfin, le bonnet rouge
avec le
sur la tête.
Avec le sentiment de délivrer le peuple.
D'apporter c'est cela, sont ahuris par son ignorance, sont scandalisés, même, on entend un grenadier, je crois, rugir d'indignation devant ce scandale pour la raison de cette femme qui trouve normal qu'autour d'elle, on se batte pour le roi, le seigneur et le curé, alors que sa famille n'a cessé d'être victime du roi, du seigneur et du curé. Mais elle les met en présence d'une vie qui est en dehors, justement, de ses opinions, et où la vivandière la comprend. On meurt sans distinction d'opinion, dit-elle. Moi, je verse à boire à tout le monde. Ma foi, oui, au blanc comme au bleu, quoique je sois une bleue. Et alors, le bouleversement ici, la secousse capitale pour le sens du roman, c'est que le régiment va être appelé à devenir père de ses enfants. D'abord parce que ce sont des enfants abandonnés, parce que ce sont des vies qui crient au secours.
Après cette scène où nous avons vu le bataillon recueillir Michel Fléchard et ses enfants, l'action commence. C'est donc un épisode de la chouannerie. Les royalistes ont l'appui de l'Angleterre et c'est précisément des îles anglo-normandes que doit débarquer clandestinement en Bretagne un prince émigré, le marquis de Lantenac, afin d'être le chef que les insurgés attendent et qui enflammera tout le pays. La corvette anglaise qui l'amène est repérée par l'escadre française, mais le marquis s'enfuit à bord d'une simple barque avec un matelot Almalo. Tous deux arrivent à la tombée de la nuit sur la côte bretonne, près du Mont-Saint-Michel. Lantenac congédie le matelot, puis il monte au sommet d'une dune, où il médite sur la grande action qu'il est en train de mener.
Le vieillard restait immobile. Il ne pensait pas, à peine songeait-il. Autour de lui, tout était sérénité, assoupissement, confiance, solitude. Il faisait grand jour encore sur la dune, mais presque nuit dans la plaine et tout à fait nuit dans les bois. La lune montait à l'orient. Quelques étoiles piquaient le bleu pâle du zénith. Cet homme, bien que plein de préoccupations violentes, s'abîmait dans l'inexprimable mansuétude de l'infini. Il sentait monter en lui cette aube obscure, l'espérance, si le mot « espérance » peut s'appliquer aux attentes de la guerre civile. Pour l'instant, il lui semblait qu'en sortant de cette mer qui venait d'être si inexorable, et en touchant la terre, tout danger s'était évanoui. Personne ne savait son nom, il était seul, perdu pour l'ennemi, sans trace derrière lui, car la surface de la mer ne garde rien, caché, ignoré, pas même soupçonné. Il sentait on ne sait quel apaisement suprême. Un peu plus, il se serait endormi. Ce qui, pour cet homme en proie au-dedans comme au-dehors à tant de tumulte, donnait un charme étrange à cette heure calme qu'il traversait, c'était, sur la terre comme au ciel, un profond silence. On n'entendait que le vent qui venait de la mer. Mais le vent est une basse continue et cesse presque d'être un bruit tant il devient une habitude. Tout à coup, il se dressa debout. Son attention venait d'être brusquement réveillée. Il considéra l'horizon. Quelque chose donnait à son regard une fixité particulière. Ce qu'il regardait, c'était le clocher de Cormeray qu'il avait devant lui au fond de la plaine. On ne sait quoi d'extraordinaire se passait en effet dans ce clocher. La silhouette de ce clocher se découpait nettement. On voyait la tour surmontée de sa pyramide, et entre la tour et la pyramide, la cage de la cloche, carrée, à jour, sans abat-vent, et ouverte au regard des quatre côtés, ce qui est la mode des clochers bretons. Or, cette cage apparaissait alternativement ouverte et fermée. À intervalles égaux, sa haute fenêtre se dessinait toute blanche, puis toute noire. On voyait le ciel à travers, puis on ne le voyait plus. Il y avait clarté, puis occultation. Et l'ouverture et la fermeture se succédaient d'une seconde à l'autre avec la régularité du marteau sur l'enclume. Le vieillard avait le clocher de Cormeray devant lui à une distance d'environ 2 lieues. Il regarda à sa droite le clocher de Baguère-Piquant, également droit sur l'horizon. La cage de ce clocher s'ouvrait et se fermait comme celle de Cormeray. Il regarda à sa gauche le clocher de Tanis. La cage du clocher de Tanis s'ouvrait et se fermait comme celle de Baguère-Piquant. Il regarda tous les clochers de l'horizon l'un après l'autre. À sa gauche, les clochers de Courtille, de Pressay, de Crolon et de la Croix à Vranchin. À sa droite, les clochers de Raz-sur-Couesnon, de Mordray et d'Épas. En face de lui, le clocher de Pontorson. La cage de tous ces clochers était alternativement noire et blanche. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela signifiait que toutes les cloches étaient en branle. Il fallait, pour apparaître ainsi, qu'elles fussent furieusement secouées. Qu'était-ce donc? Évidemment, le tocsin. On sonnait le tocsin, on le sonnait frénétiquement, on le sonnait partout, dans tous les clochers, dans tous les villages. Et l'on n'entendait rien. Cela tenait à la distance qui empêchait les sons d'arriver et au vent de mer qui soufflait du côté opposé et qui emportait tous les bruits de la terre hors de l'horizon. Tous ces clochers forcenés appelant de toutes parts et en même temps ce silence. Rien de plus sinistre. Le vieillard regardait et écoutait. Il n'entendait pas le tocsin. Et il le voyait, voir le tocsin. Sensation étrange. À qui en voulait ces cloches? Contre qui ce tocsin?
Contre qui, ce tocsin, Yves Gohin ?
Ça n'est pas clair, et l'indécence du chapitre et du titre du chapitre, il a des oreilles et il n'entendra pas, reprise d'une parole biblique et évangélique que tout le monde connaît. Ce titre signifie aussi quelque chose pour le lecteur. C'est, est-ce que nous qui lisons, nous entendons bien ? Parce que le tocsin lui-même, là, pour qui sonne-t-il, effectivement ? Pour qui sonne le glas ? Est-ce bien pour Lantenac ? C'est à cause de lui, comme il sera dit plus loin. Mais en fait, il sera dit aussi que ce sont les paysans bretons qui l'ont fait sonner pour se rassembler, parce qu'ils ont appris la venue de Lantenac. Et en même temps, ça pourrait avertir les Bleus, mais les Bleus aussi ne vont pas entendre ce tocsin. Mais comme il est dit au début de la troisième partie du roman, dans la forêt de Rennes, on entendait le tocsin des paroisses républicaines. Alors, ce n'est peut-être pas les paroisses républicaines qui dominent dans cette région, mais cela a pu être ailleurs.
Le vieillard Lantenac est en haut d'une dune, et qu'est-ce qu'il aperçoit à ce moment-là ? L'ancien monde lui-même, c'est-à-dire tous ces villages avec leurs clochers et leurs paysans.
C'est vrai. Il y a là un charme difficile à dissocier quand même de l'histoire et du sens que Hugo lui donne. C'est tout à fait précis, réaliste. C'est la description même de ce clocher avec leur tour surmontée de la cage de la cloche ouverte aux quatre vents. C'est en effet un peu l'ancien monde, là aussi, qu'on voit. Et lui aussi est alternativement noir et blanc. Il était lui-même ambivalent. Mais il y a peut-être plus profond que ça, quelque chose d'extraordinaire dans ce chapitre. C'est le mot pyramide qui peut-être l'indique, le signal.
Le Mont Saint-Michel, avait dit Hugo trois pages auparavant, est à l'océan ce que Khéops est au désert.
Et juste après, il est question ici, juste après qu'il était parlé de cette pyramide, du clocher de Tanis. Or, Tanis est bien le nom d'un village de la région, tous les noms, quelqu'un qui est allé là-bas les retrouvera, ou qui connaît le pays. Mais Tanis est aussi une ville d'Égypte.
Derrière lui se dressait, dit Hugo, énorme triangle noir, avec sa tiare de cathédrale et sa cuirasse de forteresse, avec ses deux grosses tours du Levant, l'une ronde, l'autre carrée, qui aide la montagne à porter le poids de l'église et du village, le mont Saint-Michel, qui est à l'océan, ce que Khéops est au désert. Nous sommes donc dans ce que les mystiques de l'Iran, je le rappelais tout à l'heure, nomment une géographie visionnaire, ce monde imaginal où, selon Henri Corbin, prennent substance et sens les débats métaphysiques, au lieu que, dans l'histoire simple, toute douleur est toujours non-sens, tout débat toujours absurdité.
Bon, c'est à la fois la Bretagne, et puis en même temps, dans cette Bretagne, on lit autre chose. On lit un passé encore plus lointain, ou plutôt des signes qui viennent de bien plus loin. Je crois que ce qu'on lit, c'est le signe du signe. Je veux dire par là que le clocher, alternativement blanc et noir, c'est vraiment l'hiéroglyphe.
Le vieillard restait immobile. Il ne pensait pas, à peine songeait-il. Autour de lui, tout était sérénité, assoupissement, confiance, solitude. Il faisait grand jour encore sur la dune, mais presque nuit dans la plaine et tout à fait nuit dans les bois. La lune montait à l'orient. Quelques étoiles piquaient le bleu pâle du zénith. Cet homme, bien que plein de préoccupations violentes, s'abîmait dans l'inexprimable mansuétude de l'infini. Il sentait monter en lui cette aube obscure, l'espérance, si le mot « espérance » peut s'appliquer aux attentes de la guerre civile.
Il s'abîmait. Je me demande de quelle façon il faut l'entendre. Et sans doute, on verra qu'il peut communiquer avec cette inexprimable mansuétude, même ce Lantenac.
Il vient de faire fusiller un homme.
Mais oui, il vient de faire fusiller un homme
sur le bateau qu'il conduisait,
appliquant implacablement, comme il l'a toujours fait, la loi d'un ordre féodal. Et l'aube qu'il pressent, c'est l'aube obscure de la guerre civile. Et dans quoi, finalement, se sent-il ? Dans un grand calme, mais dans un grand calme où il est tout près de s'endormir. Il est quand même remarquable, je trouve, que cet apaisement, à mon sens, préfigure sa mort. Et c'est aussi sa mort qui est préfigurée dans cette alternative de blanc et noir.
Oui, mais ce vieillard n'est pas tout silence. Et dans le monde visionnaire de 93, il nous dit quelque chose. Quelques pages auparavant, il a eu avec le paysan pêcheur breton Almalo, qui l'a emmené sur sa barque depuis la haute mer jusqu'au rivage du Couesnon, il a eu un dialogue extraordinaire. Nous allons écouter ce dialogue parce qu'on y perçoit, nonobstant, certes au premier plan, la cruauté de Lantenac, qui traite son paysan avec hauteur. D'ailleurs, il a fait fusiller son frère quelques heures auparavant sur le vaisseau anglais qui les amenait, parce que ce frère avait commis une faute que nous serions tentés, nous, de juger parfaitement bénigne. Eh bien, malgré cela, on aperçoit en filigrane, dans cette conversation martiale de Lantenac et de Almalo, un modèle de relation humaine qui tient de la fixité et du rayonnement d'un blason. Et ceci a sûrement séduit Hugo. C'est la relation du seigneur féodal, non pas exactement avec son paysan, avec son serf, mais avec son paysan dont il est amené par les circonstances à faire un soldat. Et dès lors, ce paysan est revêtu d'une sorte de noblesse, d'un début de noblesse. Il est dit explicitement qu'il pourra être fait, s'il réussit sa mission, chevalier de Saint-Louis. Mais nous sommes dans le monde des visions, qui n'est ni celui de l'action où la violence domine, ni celui de la raison où les contradictions abondent. Dans l'atmosphère visionnaire du livre, l'ancien monde, qui est un monde de ténèbres aux yeux du doctrinaire Hugo, est tout de même revêtu de cette lumière du cérémonial féodal, proche parent, il faut le dire, de la liturgie catholique, à moins que ce soit l'inverse, où se reflète aux yeux de Hugo lui-même un peu de la lumière de l'absolu.
Le vieillard dit: Almalo, nous allons nous séparer. Être deux ne vaut rien, il faut être mille ou seul. Il s'interrompit et tira d'une de ses poches un nœud de soie verte assez pareil à une cocarde, au centre duquel était brodée une fleur de lys en or. Il reprit: Sais-tu lire? Non. C'est bien, un homme qui lit, ça gêne. As-tu bonne mémoire? Oui. C'est bien. Écoute, Almalo. Tu vas prendre à droite et moi à gauche. J'irai du côté de Fougères, toi du côté de Bazouge. Garde ton sac qui te donne l'air d'un paysan. Cache tes armes. Coupe-toi un bâton dans les haies. Rampe dans les seigles qui sont hauts. Glisse-toi derrière les clôtures. Enjambe les échaliers pour aller à travers champs. Laisse à distance les passants. Évite les chemins et les ponts. N'entre pas à Pont-Torson. Ah, tu auras à traverser le Couesnon. Comment le passeras-tu ? À la nage. C'est bien. Et puis, il y a un gué. Sais-tu où il est? Entre Ancet et Vieux-Vielle. C'est bien. Tu es vraiment du pays. Mais la nuit vient. Où mon seigneur couchera-t-il? Je me charge de moi. Et toi, où coucheras-tu? Il y a des émousses. Avant d'être matelot, j'ai été paysan. Jette ton chapeau de marin qui te trahirait. Tu trouveras bien quelque part une carapousse. Oh, un tapabord, cela se trouve partout. Le premier pêcheur venu me vendra le sien. C'est bien, maintenant écoute. Tu connais les bois? Tous. De tout le pays? Depuis Noirmoutier jusqu'à Laval. Connais-tu aussi les noms? Je connais les bois, je connais les noms, je connais tout. Tu n'oublieras rien? Rien. C'est bien. À présent, attention. Combien peux-tu faire de lieues par jour? 10, 15, 18, 20, s'il le faut. Il le faudra. Ne perds pas un mot de ce que je vais te dire. Tu iras au bois de Saint-Aubin. Près de Lamballe? Oui. Sur la lisière du ravin qui est entre Saint-Rieul et Plédéliac, il y a un gros châtaignier. Tu t'arrêteras là. Tu ne verras personne. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura quelqu'un, je sais. Tu feras l'appel. Sais-tu faire l'appel? Almalo enfla ses joues, se tourna du côté de la mer, et l'on entendit le ouh de la chouette. On eût dit que cela venait des profondeurs nocturnes. C'était ressemblant et sinistre. Bien, dit le vieillard. Tu en es.
Il vient de lui exposer tout un plan de marche, d'itinéraire à travers le pays breton, à travers le pays chouan, pour contacter tous les chefs de la rébellion. Et certes,
On voit qu'il peut être l'homme d'une parole efficace. Il ne s'agit pas du tout de voir en Lantenac un vieillard absurde, comment dirais-je, une espèce de fantôme impuissant dont la révolution aura facilement raison. Pas du tout. C'est un redoutable adversaire, n'est-ce pas ? Et il a en lui toute l'énergie de la noblesse. À côté de ça, c'est un monologue impérieux. Tu feras cela, c'est le chef. Et de la même façon, avant, par un monologue non moins écrasant, en un sens, pour toute volonté personnelle de ce paysan mené par son seigneur, de la même façon, il l'avait convaincu que il ne pouvait pas, Almalo, ce frère du marin fusillé sur l'ordre de Lantenac, il ne pouvait pas se venger sur Lantenac, parce que ça aurait été mettre en péril l'âme de Lantenac qui serait mort sans confession, ça aurait été mettre en péril l'entreprise vendéenne, donc le salut de la religion, le roi et Dieu, ou Dieu et le roi.
Il tendit à Almalo le nœud de soie verte. Voici mon nœud de commandement, prends-le. Il importe que personne encore ne sache mon nom, mais ce nœud suffit. La fleur de lys a été brodée par Madame Royale dans la prison du temple. Almalo mit un genou en terre. Il reçut avec un tremblement le nœud fleur de lys et en approcha ses lèvres, puis s'arrêtant comme effrayé de ce baiser. « Le puis-je » demanda-t-il. « Oui, puisque tu baises le crucifix. » Almalo baisa la fleur de lys. « Relève-toi, » dit le vieillard. Almalo se releva et mit le nœud dans sa poitrine. Le vieillard poursuivit. « Écoute bien ceci. Voici l'ordre. Insurgez-vous, pas de quartier. Donc, sur la lisière du bois de Saint-Aubin, tu feras l'appel. Tu le feras trois fois. À la troisième fois, tu verras un homme sortir de terre. D'un trou sous les arbres, je sais. Cet homme, c'est Planchenot, qu'on appelle aussi Cœur de Roi. Tu lui montreras ce nœud, il comprendra. Tu iras ensuite, par les chemins que tu inventeras, au bois d'Astillé. Tu y trouveras un homme cagneux qui est surnommé Mousqueton et qui ne fait miséricorde à personne. Tu lui diras que je l'aime et qu'il mette en branle ses paroisses. Tu iras ensuite au bois de Couébon qui est à une lieue de Plohermel. Tu feras l'appel de la chouette. Un homme sortira d'un trou. C'est Monsieur Thuot, sénéchal de Plohermel, qui a été de ce qu'on appelle l'Assemblée constituante, mais du bon côté. Tu lui diras d'armer le château de Couébon qui est au marquis de Guerre, émigré. Ravin, petit bois, terrain inégal, bon endroit. Monsieur Thuot est un homme droit et d'esprit. Tu iras ensuite à Saint-Ouen-les-Toits et tu parleras à Jean Chouan, qui est à mes yeux le vrai chef. Tu iras ensuite au bois de Villanglose, tu y verras Guiter, qu'on appelle Saint-Martin. Tu lui diras d'avoir l'œil sur un certain Courménil, qui est gendre du vieux Goupil de Préfelne et qui mène la Jacobinière d'Argentan. Retiens bien tout. Je n'écris rien parce qu'il ne faut rien écrire. La roirie a écrit une liste, cela a tout perdu.
Almalo, maître à manœuvrer la barque et à aller dans les forêts sans se tromper, est un paysan du domaine même de Lantenac, là où se situe le château de la Tourgue, qui sera le théâtre de l'événement essentiel du roman. Et il se passe là quelque chose d'extraordinaire. Il se trouve qu'Almalo va connaître un secret du château de la Tourgue que le seigneur du lieu lui-même ne connaissait pas. C'est un passage secret qui part dans le donjon. Le paysan a donc sur son maître un empire inattendu quand on voyait la brutalité du langage du maître, étrange et complexe dialectique du maître et de l'esclave, où il semble bien que l'humanité et la secrète indépendance de l'un et de l'autre soient préservées. On perçoit entre eux une complicité qui a de quoi surprendre et révolter, on l'a vu en commençant, les républicains, mais qui est pourtant un fait.